Nous lisons aujourd'hui dans l'un des trois textes qui nous sont proposés, dans l'Évangile selon Luc, au deuxième chapitre, les versets 22 à 40. Il s'agit de la présentation de Jésus au temple. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou de jeunes colombes. Il y avait alors à Jérusalem un homme nommé Siméon. Il était juste. Il honorait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. L'Esprit Saint était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ envoyé par le Seigneur. Inspiré par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquera la contradiction et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Penouël, de la tribu d'Asser. Elle était très âgée, elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à louer Dieu. Et elle parlait de l'enfant à toutes les personnes qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, les parents de Jésus retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se développait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Vous voyez dans les derniers mots qu'on applique à Jésus ce que l'on disait déjà de Samuel. Ce sont une appréciation courante chez les prophètes, avoir la faveur de Dieu, être rempli de sagesse. Ce sera le cas du roi Salomon également. Et on sent effectivement, en lisant ces lignes, que le temps des prophètes, même s'il est achevé depuis longtemps dans les lignes que nous avons sous les yeux, réapparaît en quelque sorte avec ces deux personnages, Siméon dans un premier temps, et puis Anne, cette prophétesse qui vient à la fin, pas seulement par souci de parité. Nous voilà replongés dans un temps où Dieu s'adressait directement de vive voix à ses prophètes, à ses envoyés, comme à Samuel, Élie ou Jérémie et bien d'autres. Ces deux figures quasi prophétiques ont pourtant quelque chose de plus. Ici, elles sont là pour saluer un avènement, reconnaître qu'une époque nouvelle vient de s'ouvrir. Luc ne présente les personnages de Siméon et d'Anne qu'au début de son évangile et on n'en entend plus parler par la suite. Mais cette courte apparition est suffisante quand même pour offrir un préambule inoubliable à tout lecteur. L'essentiel est dit en effet par Siméon, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction. Une seule phrase pour annoncer tout ce qui va suivre, sans donner de détails, mais sans se tromper sur le principal. C'est un peu comme s'il disait, cet enfant est venu montrer que personne, dorénavant, après lui, ne pourra tomber sans que ce soit une nécessité, un devoir de le relever. Notre vie, comme l'Évangile, s'ouvre déjà, dès ses lignes, sur la résurrection, ou plutôt sur l'invitation à faire de la vie un relèvement. Sommes-nous capables de répondre à une telle promesse? Évidemment, cet embryon d'Évangile passe presque inaperçu, ne fait pas partie des enseignements principaux du Nouveau Testament, il n'est même pas forcément cité chaque année entre Noël et l'Épiphanie. Nous y avons droit une année sur trois ou une année sur deux, dans le meilleur des cas. C'est peut-être pour ça qu'il faut insister d'ailleurs sur ce qu'il représente. Au fond, cette annonce de Siméon est conforme à tout ce que le prophétisme biblique jusque-là nous avait appris. Dieu se manifeste en parole, et cette parole va changer quelque chose d'important en commençant par quelques héritiers chanceux, peu nombreux. Leur tâche sera ensuite de faire découvrir à d'autres comment cette parole entend changer le cours de l'histoire. Alors que Dieu entre dans l'histoire, c'est justement ce que Siméon attend, comme bien d'autres, comme tous les prophètes qui l'ont précédé d'ailleurs. Une attente de plusieurs siècles pour qu'enfin l'avenir s'ouvre sur un accomplissement, ou au moins la possibilité toujours offerte d'un accomplissement. Et c'est pour cela qu'il suffit d'annoncer que celui qui est venu est là pour la chute et le relèvement de beaucoup. Siméon peut bien s'en aller, son travail est fait. Nous vivons longtemps après ces événements et cette promesse, et pourtant, elle est toujours aussi fraîche, aussi consommable d'une certaine manière, puisque par le simple souvenir, elle nous questionne sur notre raison d'être et le sens de notre vie. Il est d'ailleurs intéressant de constater que, dans le cas de Siméon, il suffit de dire cette simple phrase pour que sa vie, déjà longue, elle touche à sa fin, pour que sa vie ait un sens ou un nouveau sens à ce moment-là, alors même qu'elle est sur le point de s'achever. C'est un peu comme si l'expérience accumulée au cours des années n'était pas forcément capable de répondre à cette question du sens de la vie, comme s'il fallait aussi la bonne rencontre au bon moment. Siméon nous confie ce secret à l'oreille. Ta vie aussi, tout comme la mienne, prendra un sens lorsque tu seras au bon endroit, au bon moment, pour annoncer un temps neuf et une vie qui se remet debout. La tienne, pour commencer, et celle des autres, par la même occasion. C'est ici qu'il faut trouver l'irruption de Dieu dans l'histoire, plutôt que dans une quelconque théorie de l'histoire. Une vie traversée par ces moments où la même vieille promesse est saisie, prise au sérieux et mise en pratique. C'est ainsi que Dieu entre dans l'histoire, dans notre histoire. Eh bien, Siméon était au bon endroit, au bon moment, pour recevoir lui-même et répercuter déjà, même à la fin de sa vie, cette excellente nouvelle. Elle sera prise au sérieux, mise en pratique, provoquera de nombreux changements dans le monde pour les siècles à venir. Et pourtant, la tradition chrétienne a souvent vu dans le personnage de Marie qu'on évoque en cours de route, la figure de l'Église qui paraît ici déchirée par des tensions ou des contradictions. Elle est même fendue en deux, hein, partagée par une arme, une épée ou un poignard. Nourri par l'histoire du peuple d'Israël, il est vrai qu'il n'était pas difficile pour Luc d'imaginer que la communauté liée à la promesse de Dieu serait perpétuellement tentée par les divisions, être partagé comme on peut l'être par un poignard ou une épée qui vous coupe en deux. La bonne nouvelle du relèvement promis à tous, cette bonne nouvelle-là, cette promesse-là, est bien détenue par nos communautés et leurs divisions n'ont pas manqué, évidemment, d'apparaître. Pourtant, la promesse simplement reprise par Siméon à la fin de sa vie est nouvelle pour lui. Mais elle n'a rien de nouveau, c'est bien une reprise de l'enseignement des prophètes. Dieu n'est jamais plus présent dans notre histoire que quand nous nous consacrons à ceux qui sont tombés et qu'il faut les relever. C'est comme cela qu'a commencé l'histoire du peuple d'esclaves, conduit hors d'Égypte par Moïse. L'idée d'un Dieu créateur ne s'est imposée que lentement et tardivement. La perception la plus ancienne de Dieu dans le Premier Testament est celle d'un Dieu libérateur. Siméon savait bien que ce message ancien était promis à un grand avenir. Pour la première fois dans l'histoire, un homme à la fin de sa vie est témoin que l'enfant qu'on lui présente est ce que Dieu offre de meilleur. L'engendrement, la mise au monde, la perpétuelle nouveauté, un avenir qui ne se ferme jamais malgré la dureté des temps, qui est de tout temps. Mais Siméon n'est pas vieux pour rien. Il saisit aussi par l'expérience, parce qu'après tout elle sert quand même de temps en temps, que cela ne se fera pas sans peine. Et c'est pour cela qu'il parle des contradictions et des difficultés qui attendent l'humanité, pas seulement à cette époque troublée, mais à tout moment de l'histoire humaine qui est perpétuellement troublée. Ce sera justement le rôle du ministère de Jésus de tenter de mettre en rapport, ou si vous préférez en conversation, l'engendrement permanent et l'attente d'une vocation, le dynamisme divin et la pesanteur humaine, l'appel de Dieu et les questions perpétuelles. Où est-ce chez moi et qu'attend-on de moi? La réponse de Jésus se fera par des guérisons, des libérations, la multiplication des pains, le rapprochement avec ceux que personne n'ose toucher par peur de la contagion, l'appel de ceux qui sont réprouvés, bref, tous ceux qui sont enfin ramenés dans le cercle des vivants. C'est pour cela qu'il prendra rapidement les coups les plus durs. Coupable de transmettre la bonne nouvelle de toujours, le culte et la tradition ne sont rien sans l'amour du prochain. L'égoïsme pseudo-spirituel ne sauvera pas vos constructions figées. Et lorsque Jésus sera abattu par toutes les forces qui préfèrent chérir le périssable plutôt que d'accueillir le nouveau, il sera relevé à son tour parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Et la promesse, attrapée au vol par Siméon à la fin de sa vie, se fraiera de nouveau un passage. Où sont donc ceux dont la vocation est d'être redressés, relevés? Ils sont ici. C'est chacune, chacun d'entre nous. Mais ils sont aussi dans le hasard de nos rencontres, en attente, sans le savoir, d'une possibilité d'être relevé, secouru, libéré par une parole toute simple du souci d'être soi, débarrassé de l'absurdité de leur vie et du poids des défis inutiles qu'on leur impose ou qu'ils s'imposent parfois eux-mêmes, etc. Le résultat de l'annonce de Siméon est la suivante. Apte au service. Personne ne sera réformé, en tout cas pour raison professionnelle ou familiale, ni exempté de service actif, apte au service. Nous ne changerons sans doute pas le monde de manière visible et fracassante, même avec une belle promesse, même si elle est éternelle. Mais nous pouvons contribuer à ce que du divin, c'est-à-dire de la nouveauté, de l'engendrement, un avenir qui s'ouvre ou qui s'ouvre à nouveau, entre dans l'existence de ceux que nous croisons comme elle est entrée dans la nôtre. C'est alors que la résurrection sera un fruit consommable, bien préférable à un mystère ou une théorie, pas toujours comestible. Bon appétit. Amen.